la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Corinne Morel-Darleux est autrice, elle est aussi militante éco-socialiste. Elle a eu un temps quelques fonctions du côté de la Drôme. Elle est essayiste et romancière. Ses essais sont généralement de courts livres publiés aux éditions Libertalia, mais qui sont fortement marquants. Le premier était intitulé « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Deux autres ont paru depuis « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs » et « Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes ». Mais c'est ici à son travail romanesque que je m'attache et dont je vais vous faire lecture, puisque vient de paraître tout juste aux éditions d'Alva « Chimère tropicale ». C'est le deuxième roman que Corinne Morel-Darleux publie aux éditions d'Alva après « La Sauvagière ». Et c'est un roman plus vaste que le premier, qui comporte quelques 250 pages pour 21,50 €. Et c'est un roman qui se compose de manière étrange avec différentes influences revendiquées par l'autrice elle-même, qui intervient d'ailleurs au cours du roman et qui parfois s'adresse au lecteur. Des références qu'on peut aller chercher du côté du réalisme magique, elle cite volontiers Garcia Marquez et d'autres, et des références qu'on peut aller chercher du côté du cinéma, et principalement celui de Werner Herzog, qui est cité directement dans le livre également. Il s'agit d'une histoire qui pourrait être multiple ou comme en mille feuilles, à travers une sorte de rêverie étrange dont je ne veux pas révéler trop de choses ici, d'un personnage principal baptisé Ariane. D'autres personnages, tout aussi principaux finalement, apparaissent, tels Victoria et son frère Félix, ou encore Émilie, Werner Herzog et d'autres. Ces personnages vont tous avoir un destin confronté à la jungle. Quelle jungle ? Eh bien, ce n'est pas immédiatement ou évidemment situé. Mais on peut supposer que cette jungle prend corps dans l'Amazonie, mais aussi, pourquoi pas, dans les jungles de l'Inde, dans lesquelles Corinne Morel-Darleux a été puisée de l'inspiration et notamment un temps de résidence d'écriture. Chimère tropicale, c'est donc un mélange d'espace, de temps, de temporalité, de réalité et de fiction, une confrontation entre des rêveries, des sentiments de mort imminente et des possibilités de récits et de réalités parallèles. Tout cela mélangé donc autour d'un crash ou de plusieurs crashs d'avion. Il y en a un avec des enfants disparus, c'est Victoria et Félix qui errent dans la jungle après le crash de leur avion dans les années 2020. Il y en a un autre en 1971, celui d'Émilie qui est la seule survivante du vol 507. Et cette réalité, ces réalités se mélangent. Alors on pourrait penser aussi à l'anomalie d'Hervé Le Tellier sur cette confrontation entre deux réalités parallèles. On peut aussi penser à La forêt d'Hokkaido d'Éric Pessan avec la rêverie ou la fièvre d'un personnage qui convoque à l'intérieur de ses pensées et de ses dérives un autre personnage très éloigné géographiquement. On peut y voir donc de multiples références, mais surtout un questionnement fort sur les réalités, quelles sont-elles, qu'est-ce qui nous échappe, qu'est-ce qui appartient au domaine du tangible, du réel, du vivant, de la psyché, de la fantasmagorie. Et c'est un livre qui, par ce fonctionnement en strates, devient tout à fait fascinant et envoûtant, et on se laisse embarquer en tant que lectrice et lecteur par le récit de Corinne Morel-Darleux et par la manière dont les choses s'agencent, s'entremêlent et se développent de manière souvent inattendue. Je vous livre un extrait à partir de la page 50 de la première partie du livre, quelque chose de plus directement tangible et avec la référence à Werner Herzog. Ce fameux matin du 24 décembre 1971, à l'aéroport, Émilie attend le vol 507 avec ses parents. Elle a 17 ans, deux fines tresses, le regard sage. Sur une photographie de famille réalisée quelques années avant en studio, Émilie apparaît légèrement surélevée par rapport à ses parents, comme si elle les enlaçait depuis l'arrière d'un canapé. Son père a des yeux vairons, un regard vif et sympathique. Ses lèvres sont fines, son front légèrement dégarni. À sa droite, la mère d'Émilie s'incline doucement vers sa fille. La fillette, blonde comme les blés, sourit à l'objectif de manière crispée. L'attente est longue dans le hall de départ pour les vols intérieurs. Ses parents sont partis chercher un café, Émilie s'ennuie. L'aéroport a été inauguré quelques mois plus tôt. Une vague odeur de peinture et de moquettes neuves flotte encore dans l'air. C'est la veille de Noël. Il ne reste que très peu de personnel, et tout ce qui porte un uniforme est assailli par une foule de passagers surexcités. Émilie observe les voyageurs chargés de cadeaux. Tous rentrent dans leur famille. Des enfants jouent bruyamment aux billes, par terre. Assis à côté d'elle, un jeune garçon ouvre et ferme consciencieusement un petit porte-monnaie dans lequel il surveille la présence de deux pièces dorées. Une grand-mère le regarde en souriant, assise sur un gros sac de toile. Certaines femmes portent déjà leur robe de soirée. Des rubans brillants s'échappent des valises. Dans celle d'Émilie sont cachés deux petits cadres d'entomologistes qui contiennent des spécimens de papillons d'Asie pour ses parents. Elle a hâte de les leur offrir. Seul, au guichet, un grand homme moustachu s'énerve avec un accent allemand. Émilie tend l'oreille. Sa réservation a été annulée suite à un changement d'itinéraire et l'homme insiste. Avec de grands gestes, il parle de conquistador et d'Eldorado. Il effectue des repérages pour un film, des sommes importantes sont en jeu, c'est un projet majeur, sa vie en dépend. Il transpire là depuis des jours. Il doit prendre ce vol. Mais l'officier secoue la tête. Les 92 places sont occupées, le vol est complet. Il bombe le torse en ajoutant que le nouvel aéroport est très exigeant sur les normes de sécurité. L'Allemand esquisse un sourire ironique. La compagnie comptabilise déjà deux crashs et sa réputation est exécrable. Mais elle est la seule à effectuer cette liaison. Les parents d'Émilie reviennent sans café, la machine est en panne. Ils sont impatients de retrouver la ferme tropicale. Ils auraient préféré partir plus tôt, mais Émilie n'aurait raté pour rien au monde le bal de fin d'année de son école, le 23 décembre. Un jeune homme avait promis de lui servir de cavalier. Elle venait d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Ses parents avaient cédé pour lui faire plaisir. La soirée a été magique et Émilie, les yeux dans le vague, sourit encore en y repensant. Elle aime profondément ses parents, mais elle va pouvoir entrer dans une nouvelle phase de sa vie à présent. Et à 17 ans, ce genre d'idée est follement excitant. À la surprise générale, l'embarquement commence à l'heure prévue. On entend des sifflets dans le hall, un joyeux brouhaha s'installe, tout le monde se presse vers les portes. Émilie a le siège du milieu. Elle échange avec sa mère pour être près du hublot. Côté couloir, un homme corpulent s'installe en soufflant et s'endort aussitôt. Le père d'Émilie s'installe dans la rangée de devant. Le vol traverse une haute chaîne de montagnes. Le bassin du plus grand fleuve du pays naît sur ses pentes orientales. Des orages s'y massent fréquemment. Pourtant, les 20 premières minutes du vol sont calmes. Émilie s'exclame quand elle repère le long serpent du fleuve qui, de temps en temps, se laisse apercevoir entre les frondaisons, indique du doigt à sa mère les arbres qu'elle reconnaît et reste songeuse devant les grands nuages blancs qui ressemblent à des animaux en mouvement. Sa mère sort le déjeuner qu'elle a préparé le matin avant de partir. Émilie passe un sandwich enveloppé de cellophane entre les sièges à son père, mange rapidement et reprend avec délectation l'épais roman anglais qu'elle s'est gardé exprès pour les vacances. Quelques minutes plus tard, sa mère la pousse légèrement pour regarder dehors. Un front de nuages sombres et denses semble avancer droit vers eux. Émilie hausse les épaules et se replonge dans son livre. Mais elle sent à côté d'elle sa mère s'agiter nerveusement sur son siège. Le ciel s'assombrit peu à peu. De premiers éclairs fusent et Émilie corne finalement sa page. Au même instant, les repères lumineux de l'appareil s'allument avec un signal sonore. Les passagers voient avec frayeur le ciel, désormais noir d'encre, se zébrer de foudre. Le gros homme au bout de la rangée s'est recroquevillé sur son siège, les bras repliés sur la tête. La mère d'Émilie gémit, les yeux fermés, en lui tenant la main. À un choc plus violent que les précédents, les compartiments supérieurs cèdent et des cadeaux de Noël dégringolent dans le couloir. Une femme dont le front saigne se met à sangloter. Soudain, un éclair aveuglant d'une blancheur incroyable frappe l'aile droite à côté de son siège. La foudre a frappé l'un des moteurs. L'avion dévisse brutalement et en un instant, c'est l'apocalypse. Dans l'habitacle, on se lamente, on hurle, on vomit, on prie. Dehors, la jungle se rapproche à une vitesse inouïe. Le fuselage vibre à s'en désolidariser de la carlingue. Des objets souvenirs, des paquets, des bouquets de fleurs volent en nuée. Les gens s'époumonnent de terreur, l'avion tombe en piqué. Quelque chose cogne brutalement Émilie. Une poussée d'une extraordinaire puissance lui comprime les poumons et la projette en arrière. Aussitôt, les hurlements des passagers cessent. Le grondement des moteurs s'éloigne. Émilie a été catapultée à l'extérieur de l'avion. Elle n'est plus qu'un corps cinglé par le vent, rattaché par une ceinture de sécurité à l'extrémité d'une rangée de sièges vides qui se dirige à une allure vertigineuse vers le sol. La ceinture lui comprime l'estomac. Une violente nausée lui fait rendre son déjeuner. La travée, entraînée par son poids, se retourne et se met à tourbillonner. C'est un extrait du livre « Chimère tropicale » de Corinne Morel-Darleux, tout fraîchement publié par les éditions d'Alva. Et, normalement, Corinne Morel-Darleux sera très bientôt invitée de la librairie Durance à Nantes pour une rencontre autour de ce livre « Chimère tropicale » à suivre donc. Puisqu'il était question de Werner Herzog par la citation de cet homme allemand moustachu qui s'indigne de ne pas pouvoir prendre le vol, c'est réellement quelque chose qui est arrivé à Werner Herzog alors qu'il faisait les repérages pour aguerrer la colère de Dieu. Le vol qu'il avait réservé finalement n'avait pas de place pour lui. Le vol s'est crashé, une seule survivante, qu'il a filmée ensuite, plus tard. Il s'agit donc de Werner Herzog et de ses grands films fous dans la forêt et dans la jungle tropicale, Aguerrer la colère de Dieu ou encore Fitzcarraldo, qui revient en citation et sur tout un paragraphe beaucoup plus tard dans le roman de Corinne Morel-Darleux. Alors, on écoute un peu de la bande-son de Fitzcarraldo.